Je vais vous proposer, en tout cas au niveau de la méthode, un voyage de dépaysement, c'est-à-dire d'adopter un point de vue méthodologique tout à fait différent. Et peut-être, il s'agit d'un dépaysement réel, je veux dire, que je vais décrire un panorama de notions, de définitions, parfois de citations de connaissances inhabituelles. Je voudrais commencer par le rappel d'une phrase que nous devons à Edmond Fleck. Cette phrase, il l'a écrite dans au moins deux de ses ouvrages. Et j'espère que vous savez suffisamment qui a été Edmond Fleck et qu'il a été en particulier un des promoteurs et le cofondateur de l'amitié judéo-chrétienne avec Jules Isaac. On a parlé hier soir dans cette salle même de Jules Isaac et je tenais à citer Edmond Fleck à ce propos. Mais non seulement il a écrit la phrase que je vais citer, mais il nous en a souvent parlé dans les leçons qu'il donnait au cercle d'études du mouvement des éclaireurs israélites de France, déjà vers la fin du temps de la clandestinité et par la suite. Il disait, et je vais d'abord citer sa phrase, et ensuite lui donner une interprétation, une analyse, un commentaire opposé à ce qu'était l'intention d'Edmond Fleck lui-même. Je vous en avertis là. Il disait, il y aurait une issue à ce conflit. Et Michel Prince tout à l'heure l'a formulé ainsi. Alors que les chrétiens disent que le Messie est déjà arrivé, j'ajoute simplement qu'ils ajoutent aussi qu'il reviendra. Et c'est ce qu'ils nomment la parousie. Les juifs, eux, disent qu'il n'est jamais encore arrivé, et qu'il adviendra, qu'il arrivera. Le cas particulier de cette confrontation avec la figure d'un faux messie selon le judaïsme qui est le messie des chrétiens, c'est que précisément le mouvement religieux, le mouvement messianique qui en a résulté, la messianité chrétienne, se réclame de l'identité d'Israël. Et qu'en parlant du messie qu'elle reconnaît, elle le définit comme étant le véritable messie des juifs, que les juifs ont, comme l'a signalé Michel Prince, dans une formule que je retiens en exergue, d'emblée rejetée. Ce que je me propose d'expliquer maintenant, c'est qu'avant même que la question se pose de rejeter la personne que les chrétiens nomment Jésus de Nazareth en tant que Messie au niveau d'une personne, c'est le projet de messianité au nom duquel ce qui a d'abord été la secte des judéo-chrétiens, puis les sectes chrétiennes, puis la chrétienté, a été considéré comme radicalement hérétique par le judaïsme traditionnel et d'emblée. La phrase d'Edmond Fleck, c'est qu'il y aura une issue un jour, parce que, alors que les uns attendent un Messie qui vient, c'est-à-dire les Juifs, les autres attendent un Messie qui revient. Et que, peut-être, selon Fleck, il y aura un jour une coïncidence de ces deux attentes, et c'est moi qui ajoute, et on verra bien si ce Messie qui revient ou qui vient, premièrement c'est le même, et où il ira, dans la messianité juive ou dans la messianité chrétienne. Mais je crois qu'il y a déjà là une formule qui peut nous expliquer, et cette fois je passe au niveau de référence du judaïsme traditionnel à proprement parler, qu'il y a déjà une différence de nature. Un Messie qui vient et un Messie qui revient, quelle que soit la séduction qu'il peut y avoir dans la forme poétique très belle de cette formule, ce n'est pas du tout la même chose. Cela renvoie à une conception du temps et à une conception de l'histoire radicalement différente. Et déjà là, nous avons l'affrontement de deux perceptions de la messianité, la juive qui attend un messie qui vient, et lorsqu'il vient c'est définitif, et l'histoire de Orlamazé, comme nous disons en hébreu, de ce monde-ci qui est le lieu des contradictions de l'identité humaine, s'achève, commence un autre temps de l'histoire humaine pour lequel tous les prophètes ont prophétisé, comme on l'a rappelé tout à l'heure, et qui est la description d'une société humaine dans l'histoire encore, les temps messianiques, mais au-delà des contradictions résolues qui font le caractère dramatique et tragique de l'histoire des hommes, en tant que cette histoire des hommes dans laquelle nous vivons encore, pourrait être considérée dans, selon les catégories de la prophétie hébraïque et du vocabulaire même de cette prophétie, comme un effort d'engendrement de l'homme authentique qui représenterait vraiment, disons, l'incarnation pour employer un terme chrétien déjà, le projet du Créateur. Comme si l'homme que nous sommes est encore au stade de l'être père et mère qui est en train d'engendrer le Fils de l'homme. Comme si la nature humaine qui est la nôtre, celle du premier homme, du Adam Harishon, avait été créée comme père du Fils de l'homme qui serait lui, j'utilise, vous l'entendez, le langage du prophète de la Bible, qui serait lui l'homme du projet du Créateur. Voilà donc la première note, si vous voulez. Un Messie qui vient et un Messie qui revient, cela n'a d'emblée rien à voir. Nous n'aurions pas du tout le temps, mais je le signale malgré tout, d'analyser les différences de conception du temps, de la durée, de la notion d'histoire même, entre la tradition hébraïque et finalement la tradition grecque. De signaler dans une lecture d'exégèse précise et attentive des textes des évangiles ce qui vient des Grecs et ce qui vient des Juifs. Mais il y aurait là matière à une confrontation dans la convivialité, comme j'aime à dire, dans la sympathie, dans l'amitié aussi, pourquoi pas, entre ces deux conceptions du projet messianique qui sont déjà dans cette première analyse, formulée ainsi, c'est toujours Edmond Fleck que je cite de nouveau, un Messie qui vient et un Messie qui revient. Il y a l'affrontement de deux identités messianiques qui, avant d'être juives et chrétiennes, sont juives et grecques. Et il suffit de noter, pour les hébraïsants et les hellénisants, que la notion de Christos, avec tout ce qu'elle entraînera, dans les précisions de la théologie chrétienne à proprement parler, et la notion de Mashiach en hébreu ne se recoupe pas. Dire que l'un c'est l'autre, que c'est le Christos qui est le Mashiach attendu par les Hébreux, c'est déjà signaler qu'il y a là un affrontement culturel de malentendu à tous les lieux. S'agit-il de Juifs qui parlent en grec, ou de Grecs qui lisent l'hébreu, mais il y a là un problème que je tenais déjà à signaler d'emblée, par rapport à cette différence d'intuition fondamentale de l'histoire comme toladot, de l'histoire comme engendrement, de la durée qui mène à un aboutissement réel, et d'autre part, d'un temps cyclique ou non cyclique, mais qui est le lieu d'événement, et non pas d'une tolada, c'est-à-dire d'un engendrement de modification de l'identité humaine d'un point de départ, le premier homme, à un point d'arrivée, le Fils de l'homme, les prophètes hébreux en tout cas n'avaient jamais parlé que de cela. Et il n'y a aucune allusion, quelle que soit l'utilisation que l'on peut faire du style aussi poétique des prophètes hébreux, aucune allusion au contenu du catéchisme de la messianité chrétienne lorsqu'elle parle de la personne qui est le véhicule de sa croyance messianique. Je dois tout de suite signaler que tant pour la notion de parousie, un messie qui revient, que pour le contenu élaboré des catéchismes et des théologies postérieures chez les chrétiens, il s'est passé beaucoup de temps avant que ne se cristallisent les notions de la messianité chrétienne et aussi la qualité ou le style de sa ferveur de la manière dont nous les connaissons maintenant à partir des premiers grands conciles et en tout cas dans le dernier millénaire de l'histoire du christianisme qui a duré, comme vous le savez, 2000 ans. C'est vrai qu'au début, les premiers disciples de celui qui est désigné par les textes des évangiles comme étant Jésus de Nazareth, disons le Christ auquel se réfère la messianité chrétienne, les premiers disciples attendaient un Messie qui vient et qui réussit premièrement, qui réussit la première fois. Ce n'est que lorsque le temps a commencé à passer après la mise en croix, et la résurrection, le récit de la résurrection nous montre que le Messie ressuscité de ces récits n'est resté sur Terre que quelques jours, 3 jours si je me souviens bien, en tout cas que peu de temps, après ce qui pourrait être défini comme la déception d'un avènement qui n'était que préfiguratif, s'est cristallisée la deuxième attente, celle de la parousie, et s'est formulée cette formule du Messie qui revient. Je crois que là j'aborde un deuxième point qui me servira de base de l'analyse que je voudrais vous présenter, c'est qu'il faut d'abord comprendre, et comme Michel Prince l'a signalé tout à l'heure brièvement, c'est qu'avant même que la personne du Messie reconnue par les chrétiens en tant que personne ne soit refusée d'emblée, c'était son projet de messianité tel qu'il nous est raconté par ses disciples au niveau des évangiles qui a été d'emblée refusé. Et pour éclairer cela, et sans doute nous aurons là l'illustration, l'exemple de la fausse messianité par excellence, selon la tradition juive, je dis bien, où j'emploierai une expression qu'il faudrait peut-être formuler un peu mieux, mais je suis obligé de traduire de l'hébreu de temps en temps, un vrai faux messie. Les autres étaient faux messies. Mais là, nous avons le cas particulier d'un vrai faux messie, si j'ose dire. Et pour élucider cela, eh bien, ne serait-ce que par les conséquences de cette messianité dans l'histoire. L'événement de la chrétienté est un événement colossal. Et aussi par la manière dont l'islam se réfère au Messie des chrétiens, qui n'est pas du tout la même que la manière chrétienne. De ce côté, la chrétienté comme de l'autre, l'islam, toute cette aventure a atteint l'histoire juive à travers 2000 ans, depuis 2000 ans par l'histoire chrétienne et depuis 14 siècles par l'histoire de l'islam de façon considérable. Mais elle n'a pas seulement atteint l'histoire juive de façon considérable, elle a signifié, elle a été signifiante, significative pour la culture humaine tout entière. Et même, ne serait-ce que par ricochet des réactions contre le christianisme ou l'islam, comme par exemple le socialisme contemporain, elle touche la planète tout entière, cet événement-là. Et par conséquent, il est nécessaire pour avoir les idées un peu claires, et peut-être premièrement, je le répète, de changer de méthode, d'essayer d'avoir une lecture juive de l'événement, et non pas une lecture chrétienne du refus juif. Et surtout, de prendre conscience que ce refus d'emblée portait premièrement sur le type de projet de messianité, avant même de porter sur l'éventualité de l'existence d'une personne qui l'incarnerait. Voilà donc mon propos. Et pour l'éclairer, je vais lire immédiatement un texte des évangiles qui est le premier chapitre de l'évangile selon Matthieu, et qui nous donnera, je pense, une clé qui peut être commune au point de départ, en tout cas, pour les consciences chrétiennes et les consciences juives, de l'existence d'une problématique de deux messianités possibles, déjà au niveau de l'identité hébraïque et de son histoire, de sa foi, de ses croyances et de ses connaissances du sens de l'histoire selon la prophétie hébraïque. Chose qui est reconnue et que je dois personnellement à l'enseignement de celui qui a été mon maître principal, le premier de mes maîtres européens, qui est Jacob Gordon, Zichron Libracha, et que j'ai reçu il y a 35 ans. Je le cite et je profite de l'heureuse occurrence qui fait que ce soir, sa femme, Madame Gordon, est parmi nous, pour rappeler qu'il y a eu là pour nous, pour notre génération, un dévoilement des sources traditionnelles que jusque-là, en tout cas dans les derniers siècles, à partir de l'émancipation, on se bornait parfois à lire pieusement d'un côté, ou d'autre part à critiquer scientifiquement de l'autre, sans toujours chercher vraiment à les comprendre dans ce qu'elle avait d'éclairant pour l'existence juive concrète, positive. Et d'ailleurs, je dois dire que j'ai partagé cet enseignement avec Michel Prince lui-même, qui a d'ailleurs eu le privilège de connaître M. Gordon chronologiquement avant. Et le schéma que je vous présenterai vient donc de son enseignement, dans sa structure, dans ses perspectives, dans ses intuitions de base, et je n'ai pas du tout à imputer la responsabilité de ce que je veux dire dans la forme à ce que j'ai reçu de mes maîtres. Mais j'indique, en tout cas les sources sur lesquelles cet enseignement était basé, et qui sont trois grands enseignements de la tradition juive, le Shneur Chodavrit du Rabbi Shaya Horowitz, et le Shla, on dit communément, le Maharal, dont vous avez souvent entendu parler, et le Peri Tzadik, qui est l'œuvre considérable du Rav Tzadok HaKohen de Lublin, et qui étaient les sources principales de ce que M. Gordon avait l'habitude de dénommer l'historiosophie, qui est comme il s'appelle barbare, inventée par les sociologues allemands, pour dire la sagesse de l'histoire. Et je pense que là aussi nous devons avoir un dépaysement de méthode, c'est-à-dire de quitter le plan unique des définitions théologiques, philosophiques, abstraites et théoriques, pour essayer d'identifier dans les réalités qui sont en cours d'histoire, dans cette histoire des engendrements qui doit mener à l'identité messianique. Je vous propose donc maintenant de vous lire, avec quelques brèves explications d'un point de vue juif, le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Ensuite, j'éclairerai, d'après les termes de l'historiosophie biblique hébraïque, en particulier au niveau de l'histoire des patriarches, de quoi il s'agit selon la conscience traditionnelle des problèmes de la messianité, et j'essaierai en fin de compte d'en tirer quelques conclusions pour l'état contemporain du problème. J'ai bien conscience qu'il s'agit là d'un programme extrêmement vaste, mais que je vais essayer de resserrer en quelques temps, de telle sorte de pouvoir vous donner le temps suffisant ce soir de réagir à ce que, je dois dire, risque d'être un peu dépaysant, tant pour les juifs que pour les chrétiens d'ailleurs. C'est peut-être la première fois que je me décide, étant donné le sujet, d'en parler de façon aussi publique, quoique un certain nombre de ces notions que nous étudions depuis 35 ans, à la suite de l'enseignement de M. Gordon, ont été déjà partagées dans les travaux de série d'études, de travaux pratiques, d'études de textes, pas seulement à Paris d'ailleurs, et à différentes occasions. Ben, donc, ce que ce chapitre de Matthieu dit, des engendrements à partir d'Abraham, qui mène, je cite le texte, je vous lis le... Christ. Ensuite, nous reviendrons, si cela est nécessaire, à cette notion de Christos, Machinar, le nom qui est donné, une fonction qui est donnée, qui est traduit au français par Jésus, et qui en hébreu est un mot qui signifie le sauveur. Voilà donc généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Retenez bien cette première expression. Jacob engendra Judas et ses frères. Et là, c'est énuméré deux des généalogies à partir du premier des patriarches, Abraham. Et nous avons un premier paragraphe de 14 générations d'engendrement qui mène au roi David. Je lis le dernier verset, Jessé, Ishaï en hébreu, engendra le roi David. Premier paragraphe de 14 générations, quelques explications sur ce premier plan. Et c'est que cela se réfère à une des données très classiques du Midrash traditionnel juif, selon lequel l'histoire d'Israël est rythmée selon les phases de la lune. Et par conséquent, il est normal qu'on nous présente dans une généalogie formulée à partir d'un milieu culturel juif traditionnel avant l'apparition du chibouk chrétien, à la manière des catégories du Midrash, on va montrer le développement en trois paragraphes de trois générations, de 14 générations, des engendrements depuis Abraham jusque au Messie reconnu par les chrétiens. Deuxième groupe de génération, David engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abias, et deuxième groupe de génération de 14 encore qui arrive au temps de l'exil de Babylone. Je lis le verset 11, Josias engendra Yéronia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Tout cela est absolument cachère selon l'histoire juive traditionnelle, si j'ose dire. Simplement, retenez l'expression, dans le premier paragraphe, Jacob engendra Judas et ses frères. Et Judas est écrit, j'allais dire, Judéa. C'est Judas, fils de Jacob, de la famille des patriarches. Alors que plus tard, on parlera d'un autre Judas, qui lui est écrit avec un S à la fin. Judas, comment dire. Mais retenez déjà cette indication. Et on arrive au troisième groupe de 14 générations qui commence après la déportation en Babylone. Et vers la fin de ces 14 générations dans le troisième groupe, nous avons Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle Christ. Vers la fin, nous retrouvons des noms familiers. Jacob, mais là, le fils de Jacob n'est plus Judas et ses frères, c'est Joseph, et qui est défini comme étant l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle Christ. L'auteur de ce texte ne s'est pas engagé de dire si Jésus est le fils de Joseph, mais Joseph est l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle Christ. Je lis le dernier verset de ce texte. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et la première notion qu'il faut rappeler, c'est que dans la famille des patriarches, il y a une problématique de conflit, de tension, de deux conceptions de la messianité qui d'emblée nous sont nommées dans le texte biblique de l'histoire hébraïque, le temps des patriarches, la messianité selon Judas et la messianité selon Joseph. Le fait que nous retrouvions ces personnages dans ce chapitre généalogique du Messie chrétien ne peut être ni un hasard ni une coïncidence. Nous lisons le texte qui est écrit. Mais, et je crois qu'il y a là, si vous voulez, un message caché, secret, à la manière des messages des textes religieux, si vous voulez, de ce que les fondateurs du christianisme veulent fonder. Deuxième coïncidence, qui ne peut pas être une coïncidence, c'est que le nombre des apôtres nous sera raconté comme étant le nombre de 12 apôtres. Quelle que soit la symbolique du nombre 12, il y a là quand même une relation avec le fait que les enfants de Jacob et tribus d'Israël étaient au nombre de 12. Mais ce qui est le plus apparent, c'est que l'antagoniste du fils de Joseph au sein des 12 apôtres va être nommé très précisément Judas. Et nous retrouvons donc dans le récit chrétien, dans le texte chrétien, la manière dont les fondateurs de la chrétienté vont reprendre à leur compte la problématique du conflit Judas-Joseph. La première indication qui apparaît très clairement à la lecture simple, c'est qu'on nous raconte d'abord, en récapitulant, comment la Bible des Hébreux a choisi dans la ligne messianique Judas et ses frères, et non pas Joseph et ses frères. Et ensuite, dans le troisième paragraphe, on va nous installer une tentative de Joseph que l'on va suivre pour la porter jusqu'à son aboutissement, s'affondera la chrétienté. Et on indique comme l'obstacle, l'empêcheur, je ne sais pas comment dire ça en français précisément, l'hostile, le refus, un certain Judas. Derrière le mot de Judas dans le texte chrétien, il y a les Juifs. Derrière le mot de Joseph dans le texte chrétien, il y a l'époux de Marie dont est né celui qu'on appelle le Christ, c'est-à-dire la chrétienté. Alors, de quoi s'agit-il dans ces deux projets messianiques, l'un qui est appelé Judas et l'autre qui est appelé Joseph? C'est la deuxième partie de l'analyse que nous allons présenter assez rapidement. Mais, j'espère avoir déjà indiqué que d'emblée, dans ce chapitre, on signale deux choses. C'est que d'emblée, les Juifs, à travers la figure de Judas, ont refusé cette messianité-là. Et que d'emblée, cette messianité-là, dans son hostilité à la figure de Judas, est anti-juive. Il y a là deux options messianiques en conflit d'emblée. Et c'est pourquoi je dis souvent à mes amis chrétiens que notre problématique, que notre controverse sur la messianité peut se dérouler sans faire allusion à la personne du Christ que vénère, que révère et vénère les chrétiens, pour des raisons de respect de la sensibilité d'autrui. Parce qu'il nous est impossible, si on nous pose la question, de ne pas répondre, il s'agit d'un faux récit. Et donc, ce que je proposerais du point de vue de la méthode, c'est qu'on essaye de suivre ce débat au niveau de l'affrontement de deux définitions de la messianité, en laissant de côté, purement et simplement, le problème de la personne du Christ ou de son historicité, étant donné que nous nous parlons de juifs à chrétiens. Et je pense, par exemple, que tous les historiens juifs, et en particulier très contemporains, qui concèdent à la conscience chrétienne une dignité à cette figure qui est nommée Christ par les chrétiens, une dignité de rabbi, rabbi Jésus, je ne sais pas, j'entends souvent cela, ou bien de prophète, de leader, de tribun, tout ce que vous voulez, mais évidemment pas de Dieu homme, de l'incarnation et tout le reste, croient faire plaisir aux chrétiens. J'ai un témoignage israélien à vous poser, en réalité ça les choque beaucoup plus, parce que c'est pas comme ça que les chrétiens y croient. Et on croit, comment dire, honoré, en réalité, on méprise. Parce que c'est pas du tout la figure du Jésus-Christ des chrétiens. Et il y a là une attitude de mépris, une erreur méthodologique grave. C'est pourquoi j'ai personnellement l'habitude d'essayer d'aborder ce problème sans mettre au centre ce qui est le foyer même de la ferveur et de la sensibilité de la messianité chrétienne, à sa manière, la personne de Jésus-Christ. Et pour, aussi pour d'autres raisons. Mais je crois que cette première raison est importante, je vous demande à l'entendre en toute honnêteté. Et pour d'autres raisons, c'est que l'hypothèse qu'il y ait eu un personnage historique qui s'appellerait le Jésus-Christ auquel les chrétiens croient, est une hypothèse ambiguë à tous les niveaux. Parce que, quel que soit le personnage historique dont il pourrait s'agir, du point de vue de la conscience juive, il ne peut pas s'agir de la figure en laquelle croient les chrétiens. Et donc, le problème de l'historicité de cette personne ne nous concerne pas. Je sais bien que les chrétiens ont l'habitude de nous demander un registre d'état civil pour être sûr qu'il y a eu historicité. Et qu'aussi beaucoup d'auteurs juifs sont séduits par l'idée d'écrire un livre pour décrire la vie de Jésus, c'est un roman. Simplement, ils essayent de décrire la vie d'un juif pieux parfait de ce temps-là. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le Jésus auquel croient les chrétiens. Et c'est pourquoi ce que je voudrais formulé sur ce point, c'est que je vais me préoccuper de la signification de la figure qui apparaît dans ce récit, et non pas du tout d'une personne, ni de son historicité. Quand je dis figure, la connotation de ce terme, c'est évidemment le mythe. Mais là encore, il faut entendre ce terme et cette catégorie, non pas dans une connotation négative, mais dans ce qu'est l'objet de croyance des consciences chrétiennes. Confronté à notre refus par rapport au problème de l'historicité, apparaît la notion de mythe. Mais j'entends bien que pour le chrétien, ce n'est pas un mythe, c'est l'objet de sa croyance. Et donc il faudrait aussi entendre ce terme de mythe, pas du tout, dans une connotation négative. Malheureusement, ce mythe a été dévastateur pour l'histoire juive, et dévastateur pour l'histoire du monde en général, je crois. Mais il est bien clair, à nos yeux, que c'est l'objet de croyance, objet de la ferveur dans l'exigence du salut pour des millions de millions de millions de consciences. Et c'est donc encore une raison supplémentaire pour laquelle je pense qu'il vaut mieux se borner à parler de la figure qui nous est décrite et non pas du tout d'une personne. Eh bien, qu'en est-il de cette différence entre ces deux options de la messianité qui se nomment l'une la messianité de Judas et l'autre la messianité de Joseph, déjà au niveau du récit de la Bible hébraïque lorsqu'elle nous raconte l'histoire des patriarches. Je pourrais prendre ce problème à différents registres, mais j'essaierai de le prendre très rapidement au niveau typologique. En nous racontant très brièvement un peu l'histoire de Joseph, du Joseph dont parle la Bible grecque. Eh bien, Joseph, selon ce récit, va naître à la fin de l'exil de Jacob chez Laban.